Lyon demain, histoire lyonnaise.
Bonjour Jacques Baudière.
Bonjour Gérald.
Jacques Baudière, ici on est dans un endroit qui est un peu mystérieux, à Lyon, en plein cœur de la presqu'île. Rue Tupin, c'est un lieu un peu magique. On est chez le crépin de Lyon. Expliquez-nous ce que c'est le crépin de Lyon.
Eh bien le crépin de Lyon, le crépin en tout cas, c'est un métier qui date de plus de 100 ans. Et l'objet du métier, c'était de fournir les cordonniers à l'époque, puisque les cordonniers avaient besoin de matière pour fournir des chaussures, fabriquer des chaussures et les fournir. Et en fait, le crépin était là pour rassembler en fait l'ensemble des produits qui pouvaient aider à la fabrication des chaussures pour pouvoir les distribuer aux cordonniers dans la région.
Ah, ici, c'est un lieu qui existe depuis, je crois, 1895. On remonte vraiment à l'invention du cinéma. C'est l'année de l'invention du cinéma.
Complètement.
Qu'est-ce qui se passe ici en 1895?
1895, alors à la construction de l'immeuble, donc quelques années auparavant, on a ce magasin qui se crée avec son activité à la construction de l'immeuble. Donc vraiment, quand la rue Tupin a été créée, en tout cas refaite. De là, on a un crépin. Le propriétaire, en tout cas, vend à deux associés, dont mon arrière-grand-père. Ils sont deux associés et l'associé de mon arrière-grand-père décède deux ans après, en 1895. Et mon arrière-grand-père prend la main en 1897 tout seul. Lui, il est né en 1867, donc à l'âge de 30 ans, il prend la direction et la gestion complète de ce point de vente.
Et c'est une affaire qui est prospère à l'époque ?
Oui, complètement, oui. Il a eu plus de 6 salariés dans ce magasin. C'est vrai qu'il a fait sa petite richesse locale lyonnaise avec cette activité-là à distribuer finalement un ensemble de produits sur toute la région.
Qui étaient les clients à l'époque ?
Les clients, les cordonniers, majoritairement. Majoritairement, c'est ce qu'on va retrouver encore dans le magasin. On va retrouver des cuirs, des croûtes de porc pour les semelles. On va retrouver des formes, on va retrouver des pointes, des semences, etc. Oui.
Pourquoi avez-vous repris cette boutique, vous, en 2025 ?
Alors, j'ai repris le magasin suite à une prise de conscience lors d'un séjour à Flavigny-sur-Oserin, en Côte d'Or, où j'ai une amie qui est la petite fille de l'ancien propriétaire des anis de Flavigny. Vous voyez ces petites boîtes ovales dans lesquelles on trouve des anis. Et elle m'a fait visiter le magasin, le musée, qui ne lui appartiennent plus du tout. Mais en visitant ce magasin, ce musée, elle me dit, tu vois, ici, sur les murs, on va trouver des photos de mon grand-père. On va circuler dans les couloirs dans lesquels j'étais quand j'étais petite, etc. Et ça m'a fait prendre conscience que le magasin familial, parce que finalement, je représente la quatrième génération, aujourd'hui, pouvait pas disparaître. C'est bien pour ça que j'ai repris le magasin. C'était vraiment une prise de conscience en me disant mais c'est pas possible de le faire disparaître ce magasin qui est une institution lyonnaise pour les Lyonnais, pour les touristes aussi qui visitent Lyon parce qu'ils découvrent quelque chose qui est authentique, qui fait partie du patrimoine lyonnais, du patrimoine français également. Oui.
Puisqu'on est en radio, est-ce qu'on peut le décrire ce magasin? On peut le visiter là?
Oui, bien sûr. Oui.
Quand on rentre, on tombe sur quoi?
Alors quand on rentre dans ce magasin, on va tout de suite tomber sur cette caisse qui est vraiment d'origine, qui est vraiment d'époque, et j'imagine à chaque fois quand je
me... Donc les anciennes caisses qu'on trouvait dans les grands magasins, un petit peu.
Exactement, oui. Ça, avec une grille de protection, avec un espace, vraiment une séparation entre le client et le caissier derrière.
Mais à la fois, c'est pas blindé, il n'y a pas une vitre, il n'y a pas...
Il n'y a rien. Voilà. Mais il y a un côté... c'est un vrai charme, en fait. Complètement, oui.
L'ordinateur, il n'y était pas à l'époque.
L'ordinateur, non, il n'existait pas.
La photo, là
Alors, sur la photo, on va avoir ici, ça, c'est mon arrière-grand-père, qui s'appelait Alfred, avec son chien. Et le chien, je l'ai toujours. Il est empaillé, il est dans un garage actuellement. Et je compte bientôt le ramener... parce qu'il y a des clients qui l'ont connu, parce que mon père auparavant le mettait, puis quand il avait décidé de vendre il y a à peu près 3 ans, on l'avait enlevé, on l'a mis dans un garage. Mais il y a des clients qui repassent et qui me disent mais il est où le chien, et qui me refont penser, qui me font penser que j'ai toujours ce chien dans un garage. Et là c'était une photo avec mon arrière-grand-père, donc bien habillé, on est début 20e siècle,
habit du dimanche
avec manteau en astrakhan, là on devine de l'astrakhan, vous voyez, puis le chien aussi dans son élégance, complètement.
Avant d'entrer quand même, on a une façade quand même.
On a une superbe façade qui n'a pas bougé depuis plus de 100 ans. On retrouve vraiment une vitrine avec du verre de Saint-Just-Saint-Rambert, donc du verre qui est soufflé avec avec ses bulles à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et puis des tablettes en verre, très épais. Puis des équerres, alors vous voyez, qui ont été recouvertes. Je vous montrerai après les équerres. Quand on l'a retravaillé là, il n'y a pas longtemps, pour retrouver le laiton en fait, parce qu'elles sont en laiton ces équerres. Donc c'est vraiment magnifique et ça permettait de vendre les produits, en tout cas de les exposer. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Oui.
Il y a beaucoup de choses à lire sur les rideaux.
Sur la vitrine à l'extérieur, oui, tout à fait. Oui. Là on a repris il n'y a pas longtemps, donc on parle des tiges piquées, parce que les tiges c'est vraiment le haut de la chaussure, quand on va fixer le cuir sur la semelle. On parle de cuir, on parle de peau, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans le magasin, la vente de ce type de produit-là. Et puis aussi tout ce qui tourne autour de la chaussure, c'est-à-dire, ben, là on était sur fourniture pour chaussures, et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui avec les produits d'entretien du cuir. Oui.
Et sur les volets aussi.
Les volets, alors ça je me souviens, c'est mon père qui avait écrit à l'époque vraiment tous les produits, parce que les gens s'interrogeaient, il y avait tellement un bric-à-brac dans ce magasin, pour ceux qui le connaissent, que mon père s'était décidé à réécrire, à écrire sur les volets tous les produits qui étaient vendus dans le magasin.
Alors justement, quand on rentre là, après on a des meubles, ça sent le bois, ça sent le... Voilà, ça sent le cuir, ça sent plein de choses.
Il y a énormément de matières qui se mélangent. On a déjà le parquet, vous voyez, le parquet qui n'a pas bougé depuis 130 ans. Et je crois qu'il n'a jamais été lavé, ce parquet. Donc, il est juste aspiré depuis pas longtemps. Mais il n'a pas bougé. Puis après, on a toutes ces odeurs autour de l'anoline, de cire d'abeille, la graisse. Vous voyez, tous ces produits-là pour entretenir le cuir. Tout comme on va avoir les embauchoirs avec cette odeur de cèdre très, très particulière. On peut ouvrir une boîte, là, vous voyez, et puis sentir le cèdre. Et on va avoir quelque chose qui sent le bois, puisque les embauchoirs, vraiment magnifique, avec cette odeur qui nous rappelle...
Pour mettre dans les chaussures, donc
pour tenir les chaussures, et puis aussi pour absorber l'humidité, puisqu'on est sur un bois qui n'est pas traité, bah en tout cas qui n'est pas verni.
Ah, évidemment, l'élément central, ce sont les pots.
Oui, dans le magasin, on va avoir des pots. Alors, c'est vrai que l'activité de crépin, avec le temps, a évolué, parce que les cordonniers, depuis bien longtemps maintenant, s'approvisionnent directement auprès des fournisseurs. À l'époque de mon grand-père, et puis par la suite avec mon père, ils ont cherché à diversifier l'activité, et aujourd'hui, on propose, et je propose des pots de mouton, des pots de veau décoratifs à utiliser. Utiliser comme tapis, à mettre devant un canapé ou bien sous une table de télétravail par exemple. Et puis après il y a les peaux de vache également qui sont utilisées comme tapis. Donc il y a différentes tailles, il y a toutes les couleurs possibles. Et puis à chaque fois c'est unique, c'est ce que je dis à tout le monde. On est vraiment sur des produits qui sont uniques, qui vont vraiment marquer la différence et dans les habitations des uns et des autres. Chambre, salon, salle à manger. J'ai même des personnes qui utilisent les peaux de vache comme couverture. J'en ai une personne comme ça. Et j'ai plusieurs personnes qui utilisent là maintenant les peaux comme nappe directement, parce que finalement c'est un produit qui est durable, qui va vivre pendant 15 ans, 20 ans sans problème, et la peau ne se tache pas. On peut verser du vin ou du café dessus, il n'y a pas de tache.
Et l'entretien, c'est
de
la peau. Comment on le fait, l'entretien ?
Entretien, aspirateur seulement, et puis s'il y a une tache, ben, on passe un coup d'éponge et c'est terminé. C'est de la peau.
Tous ces tiroirs là, c'est quoi ?
Tous ces tiroirs, alors on a énormément de tiroirs où on va ranger ici toutes les petits accessoires pour la chaussure. On va trouver des râpes, on va trouver des mousquetons, on va trouver des anneaux.
On peut en ouvrir un là pour entendre là, un peu.
Oui. Alors on peut prendre celui-ci par exemple. Voilà, et là on a un ensemble de mousquetons que les gens peuvent me demander pour fabriquer par exemple des lanières, des laisses ou des choses comme ça. C'est très très bien, puis des belles pièces comme ça en termes d'usinage d'époque, c'est magnifique.
Et là vous savez tout où ça se trouve là ?
Alors les tiroirs où c'est écrit V, il y a la lettre V inscrite, normalement c'est vide. Mais parfois j'ai des surprises. Là il y a un V mais il y a quand même quelque chose dedans, donc c'est très particulier, ou sinon c'est affiché voilà, ou c'est écrit à la craie dessus, directement sur les blocs tiroirs.
Et ces grands tiroirs dans une commode là, c'est quoi ?
Alors tiroir ici, on va trouver de la marchandise qui peut être vendue, parce qu'il y a des chaussons en polyéné, il va y avoir des semelles en laine aussi également. Et puis après c'est un ensemble de tiroirs avec les outils que je vais utiliser pour fabriquer des bandes de cuir, fabriquer des ceintures à la taille des personnes. Donc voilà tous mes tiroirs. Et ici on a par fonction avec de très vieux ciseaux par exemple, qui sont magnifiques, qui font bien, ils font combien sur les deux fers ? Près de 30 cm de long, ouais. Très très joli. Ouais.
Parce qu'on est d'accord, ici on ne fait pas que vendre de la peau, vendre des articles, il y a aussi une activité atelier ?
Alors atelier, c'est... moi j'aime bien proposer ce que mon père proposait, c'est-à-dire des ceintures que je fabrique, que lui fabriquait auparavant, qui sont très appréciées, dans le sens où les gens m'apportent des ceintures qui sont souvent... Je vais vous dire souvent de grandes marques, mais qui sont parties en lambeaux quoi, avec le temps. Donc les gens viennent ici pour faire de la ceinture qui est durable, avec un produit, avec des ceintures en cuir pleine fleur. Donc là, on va pouvoir, je vais vous montrer ici, c'est quelque chose de magnifique, c'est ce cuir-là, par exemple, et qu'on peut poser ici. Et là, on a toute une matière. Alors là, on est sur la partie, voilà, on va voir ce cuir-là. Là-dedans, je vais faire une ceinture. Et on est sur une épaisseur qui est de 3-4 mm, 3,5 mm. Et là, on part pour 10-15 ans. Quand la ceinture, bah, quand le cuir est là, plus une boucle souvent italienne, parce que les Italiens font de très belles boucles, montées avec des rivets, on a un produit qui va durer 15 ans, sans problème.
Il y a des mentions, là, talon tournant, le conquérant, caoutchouc, ça veut dire quoi ? C'est quoi ça ? C'est un produit d'époque ?
Oui, c'est un produit d'époque. Mon arrière-grand-père et grand-père, bah, arrière-grand-père avait un produit qui s'appelait le talon tournant et qui doit être quelque part par là. Et c'était un produit qui allait qu'on allait fixer sous le soulier des personnes et ça permettait de faire une rotation du talon et d'user quatre faces.
Donc, au lieu d'user toujours le même côté.
Quoi. Exactement, oui.
Très ingénieux.
Très ingénieux. Bon, ça a disparu, mais voilà. Le produit, il est toujours là en démonstration parmi les autres produits. Oui.
Comment a évolué votre activité ? À l'époque, j'ai l'impression que c'était une activité B2B et qu'aujourd'hui, on s'est un peu diversifié dans le grand public également.
Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui viennent, qui sont des amateurs du cuir, déjà qui aiment la matière, des personnes qui veulent travailler la matière, puisque je vends aussi des peaux indépendamment, voilà, des peaux sans poils, on va dire, donc des cuirs pour de la fabrication de carnets, fabrication de petites maroquineries, parce que beaucoup de personnes se lancent dans la fabrication aujourd'hui. Il y a aussi ce côté...
Le do it yourself, c'est ça
C'est ça, il y a des tutos sur internet, il faut trouver de la matière, moi j'apporte la matière et les outils, parce qu'on peut aussi trouver des outils, les outils nécessaires au travail du cuir, donc ça c'est plutôt intéressant. Puis après le côté acheter qui vient pour son entretien de cuir, donc petite anecdote, ça va être tiens, un baume comme celui-ci, un baume qui est magnifique, noir, et qui a pu être utilisé pour remettre de la couleur sur les sièges. Donc c'est les sièges d'une Rolls qui ont été équipés de ce produit-là, et ça c'est très très beau, où je vais avoir de la matière pour restaurer ici, ça va partir pour un... Ça, c'est un cuir pour un volant de Mercedes qui va être refait. Donc, j'ai les aiguilles, j'ai la colle et puis le fil pour refaire ce volant. Donc, c'est à chaque fois des histoires géniales. Et puis, je demande aux gens de me prendre des photos pour alimenter ensuite les réseaux sociaux pour montrer voilà, que le magasin existe et bien
ouais,
présent.
Ouais, ouais. Ouais.
Et puis, moi, je suis très content de voir la matière, de savoir comment elle a évolué, qu'est-ce que la personne a pu en faire. Ouais.
Vous êtes un peu un porte-drapeau de l'anti-fast fashion ?
Je me dis simplement que c'est important de choisir de la bonne matière au départ. Fast fashion, oui, effectivement, il faut passer par...
Tout le monde n'a pas les moyens de
c'est
venir
ça.
Chez vous.
Oui et non, parce que franchement, quand on regarde les prix des ceintures, par exemple, on est autour de 60-70 euros une ceinture qui est faite quasiment sur mesure, parce que je vais faire les trous exactement pour votre taille. On ne trouvera pas ça ailleurs, en fait.
Les peaux, elles viennent d'où ?
Les peaux, toutes les peaux. Alors, il y a plusieurs fournisseurs qui viennent, qui sont en France. Il y a des grandes tanneries françaises. Et puis après, il y a des grossistes aussi dans la région lyonnaise et qui sont très intéressants parce qu'ils ont des provenances italiennes, des provenances espagnoles, des provenances portugaises également. Donc il y a vraiment du choix. Et il y a ce que je propose en magasin, puis après il y a ce que je vais commander directement pour les clients qui ont des besoins spécifiques. Celui-ci, ça c'est une peau végétale naturelle.
Ça veut dire quoi une peau végétale ?
Végétale, il y a eu un tannage qui a été fait avec de la matière naturelle tout simplement. Et qui ensuite, lui, va être utilisé pour faire une énorme ceinture. Parce qu'elle va faire 45 cm de large pour une reconstitution Moyen-Âge, combat,
etc. Voilà. Hein,
ouais.
Un costume.
Ça va être très intéressant. Ouais, ouais. C'est ça qui est bien avec la matière, avec le cuir, parce qu'on peut travailler une grande pièce comme travailler des petites pièces. Pour un monsieur, j'ai juste fait une petite pièce pour mettre dans la paume de la main parce qu'il avait besoin d'un cuir très épais pour pouvoir coudre des voiles de bateau, donc avec de grandes aiguilles. Donc juste une grosse épaisseur de cuir pour pouvoir enfiler des voiles de bateau. Je trouve ça génial avec la matière parce que c'est pour ça que je garde quasiment tout de la matière, parce que juste un petit morceau peut être utile, en fait.
On peut dire que c'est vraiment des produits qui sont durables, hein, qui sont...
Bah,
qui
là, c'est durable, oui, parce qu'on est vraiment sur l'exploitation. C'est vrai que parfois, des personnes, oui, mais c'est pas agréable, c'est de la peau, c'est de la matière, c'est un animal mort, etc. Je sais, oui, mais bon, l'animal, il était tué pour sa viande, majoritairement, tout le temps même, d'ailleurs. Et après, nous, on exploite simplement la partie déchets de l'animal, qui est pas, voilà, puisque c'est pas de la viande, mais on en fait autre chose. Et aujourd'hui, ben, le monde entier utilise du cuir et de la peau dans différents domaines, quoi. Chaussures, maroquinerie, sellerie, automobile, équitation.
Comment vous jonglez entre la tradition et la modernité ici ?
La tradition, c'est de conserver les produits traditionnels comme ils... Voilà, les produits traditionnels, voilà, la matière pure, dure, avec les produits d'entretien qui vont bien avec, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent ici en disant « mais il me faudrait du cirage ». Je leur dis « oui, mais il n'y a pas que le cirage. Où est-ce que vous en êtes avec votre produit ?» Donc je leur demande « voilà le produit, qu'est-ce que vous voulez faire ?» etc.
C'est beaucoup une activité de conseil aussi.
C'est énormément de conseils. C'est vraiment une éducation ou même rééducation, je pense, qui est nécessaire aujourd'hui pour bien faire comprendre qu'un produit, un cuir, ça se nettoie, ça se nourrit, ça se cire derrière, ça peut même se repigmenter et puis ça vient s'imperméabiliser. Donc il y a plusieurs types de matières, plusieurs produits qui existent selon le type de cuir. On peut avoir un cuir très épais, type blouson perfecto. On va poser de la graisse, par exemple, pour assouplir le cuir, pour le rendre aussi imperméable, en tout cas protection vis-à-vis de la pluie, oui.
Vous êtes confiant sur l'avenir, parce qu'on voit beaucoup de magasins justement historiques qui ferment. On pense à l'Homme d'Osier, pas très loin, ou des magasins comme ça qui dataient d'il y a un siècle ou plus.
Moi, je suis assez confiant parce que je suis sur un marché de niche, et il y a des besoins réels. Il y a des besoins réels parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ressortent des blousons, des placards, des sacs à main qui étaient dans les placards, qui disent tiens voilà, au lieu de racheter aujourd'hui, je ressors de la matière et j'ai besoin de l'entretenir cette matière. Ça va être de refaire une bride, ça va être de refaire des petites choses ici et là. Et ça c'est très très important, ouais. Donc l'avenir, oui, je le vois très très bien en fait.
Maintenant que tout a été refait ici, tout paraît pas neuf, mais en tout cas ça donne envie, quoi. C'est quoi vos projets, à part faire revenir le chien de l'arrière-grand-père?
Alors, le projet, ça va être, c'est développer la communication, ça c'est très important. Sur le magasin, c'est ce que je fais depuis plusieurs mois à travers les réseaux sociaux, parce que c'est important de communiquer, c'est aussi de fédérer aussi, ou fédérer, peut-être pas fédérer, mais de redonner des lettres de noblesse au métier du cuir, au pluriel, hein, à Lyon, entre les cordonniers, entre les maroquiniers, de dire voilà, on peut tous travailler cette belle matière au niveau local, parce que Lyon le mérite, avec son nombre d'habitants, avec ses touristes, et ça c'est très important. Après, d'un point de vue plus commercial, il y a le site internet, créer un site marchand, c'est en cours, il va arriver fin d'année, voilà, pour développer une présence supplémentaire en ligne. Ouais.
Vos clients, ils viennent de loin ?
Oui. Oui, grâce aux médias, entre autres, la communication, j'ai eu des clients de Paris qui rentraient du ski, qui sont arrêtés à Lyon, non pas que pour le magasin, mais qui en ont profité d'être à Lyon pour passer au magasin, oui.
Et puis surtout, il y a les photographes.
Puis il y a les photographes, et puis il y a des réseaux de photographes aussi, il y a aussi des touristes qui passent avec des groupes aussi, oui, il y a des groupes qui passent, des cercles amicaux, voilà, des clubs, vous voyez, des clubs, voilà, qui passent aussi, donc c'est toujours très intéressant de communiquer sur le magasin, oui.
Merci Jacques Baudière.
Mais merci Gérald.